Chapitre 19. Le siège du château en Espagne. Il y avait au moins 4 heures que le soleil s'était couché, et peu de voyageurs se seraient souciés de rester aussi tard en dehors des murs de Rome. Cependant, la voiture de M. Dorrit, achevant sa dernière et ennuyeuse étape, réveillait encore les échos de la campagna solitaire. Les bergers sauvages et les paysans farouches, dont la présence avait varié la monotonie de la route tant que le jour avait doré, s'étaient tous couchés avec le soleil, laissant le désert vide. Parfois, au détour de la route, une pâle lueur rougeâtre apparaissait à l'horizon comme une exhalaison de cette terre semée de ruines, indiquant qu'on se trouvait encore loin de la ville des Sept Collines. Mais encore n'était-ce qu'à de rares et courts intervalles qu'on avait la consolation d'entrevoir le but du voyage. La berline ne tardait pas à se replonger dans un creux de cette mer noire et sèche, et pendant longtemps on n'apercevait plus que la route pétrifiée et le ciel sombre. M. Dorrit, bien qu'il eût son château en Espagne pour le distraire, ne se sentait pas à l'aise sur ce chemin peu fréquenté. Il se montrait beaucoup plus curieux à chaque chaos de sa voiture qu'il ne l'avait été depuis son départ de Londres. Le valet, qui occupait le siège inutile du cocher, tremblait sans vergogne. Le courrier, installé sous la capote de derrière, n'était pas tout à fait rassuré. Chaque fois, et cela arrivait fréquemment, que M. Dorrit baissait la glace et jetait un coup d'œil sur ce serviteur, il est vrai qu'il le voyait occupé à réduire en cendres l'offrande de John Chivery, mais presque toujours debout et regardant autour de lui, comme quelqu'un dont les soupçons sont éveillés et qui se tient sur ses gardes. Alors M. Dorrit, après avoir relevé la glace, se rappelant que les postillons avaient l'air de vrais coupe-jarrets, se disait qu'il aurait mieux fait de coucher à Civita Vecchia et de repartir de bonne heure le lendemain matin. Ses réflexions, néanmoins, ne l'empêchaient pas de travailler de temps en temps à son château. Voilà qu'on reconnaît, aux fragments d'enclos en ruine, aux croisées sans châssis, aux murs délabrés, aux maisons abandonnées, aux puits qui filtrent, aux réservoirs crevés, aux cyprès semblables à des spectres, aux lambeaux de vignes enchevêtrés, à la transformation de la route en une allée longue, irrégulière, mal entretenue, où tout tombe en poussière, depuis les habitations hideuses jusqu'à la route raboteuse, on reconnaît qu'on se rapproche de la ville éternelle. Voilà que tout à coup l'équipage recule et s'arrête. M. Dorrit, persuadé que l'heure des brigands a sonné et qu'on va le jeter dans un fossé après l'avoir dépouillé, met la tête à la portière. Il reconnaît alors qu'il n'est assailli que par un enterrement qui s'avance en psalmodiant machinalement. Il entrevoit des vêtements sales, des torches blafardes, des encensoirs qu'on balance et une grande croix que suit un prêtre. Il n'était pas beau, ce prêtre, à la lueur incertaine des torches, avec sa figure lugubre et son front protubérant, et lorsque ses yeux rencontrent ceux de M. Dorrit, qui montre sa tête nue à la portière, ses lèvres, continuant à psalmodier ses libéra, semblent menacer cet important voyageur. Le geste de sa main droite, bien que ce ne fût qu'une manière de rendre le salut de l'étranger, avait l'air de confirmer cette menace. Du moins, c'est ce que pensa M. Dorrit, dont l'imagination était surexcitée par ses fatigues d'architecte et de touriste, en voyant le prêtre passer devant lui et la procession disparaître lentement avec ses morts. M. Dorrit et sa suite continuent leur route dans un sens tout opposé, et bientôt, avec leur équipage chargé d'objets de luxe tirés des 2 grandes capitales de l'Europe, ils viennent, comme autrefois les Goths, frapper aux portes de Rome. Seulement, c'est dans Rome, aujourd'hui, que sont les Goths. Les gens de M. Dorrit ne l'attendaient pas. On l'avait attendu, mais on ne comptait plus le voir arriver que le lendemain, convaincu qu'il ne se souciait guère de voyager aussi tard dans le voisinage de Rome. De sorte que, lorsque la berline de voyage s'arrêta devant la porte, le concierge seul se présenta pour recevoir son maître. « Mademoiselle Dorrit était-elle sortie ?» demanda celui-ci. « Non, elle se trouvait à la maison. »« Très bien, » dit M. Dorrit au domestique, qui arrivait à la hâte. « Vous pouvez rester où vous êtes. Aidez à déballer la voiture, je saurais bien trouver Mademoiselle Dorrit tout seul. » Il monta donc le grand escalier, lentement, d'un pas fatigué, et traversa plusieurs salons vides jusqu'à ce qu'il vît une lumière dans une petite antichambre. C'était un cabinet tapissé assez semblable à une tente qui s'ouvrait au fond de deux grandes salles de réception. La lumière y paraissait plus resplendissante et l'air plus chaud après la sombre avenue que le vieillard avait dû traverser pour y arriver. Il y avait une portière de tapisserie, mais point de porte, et lorsque M. Dorit s'arrêta, regardant sans être vu, il éprouva une certaine angoisse. Ce n'était sûrement pas de la jalousie. Pourquoi eût-il ressenti de la jalousie? Il n'y avait là que sa fille et son frère. L'un assis tout près de la cheminée se réchauffait à un feu de bois, l'autre assise à une petite table s'occupait à quelque ouvrage de broderie. En faisant la part de la grande différence des décors, les deux acteurs de cette scène répétaient le rôle que l'ex-doyen se rappelait avoir joué autrefois. Car Frédéric lui ressemblait assez pour prendre dans ce tableau la place de son frère absent. En effet, n'était-ce pas ainsi qu'il avait veillé lui-même plus d'un soir devant un feu de charbon de terre, tandis qu'une enfant dévouée travaillait non loin de lui? Mais il n'y avait rien sans doute dans ce misérable passé qui put exciter sa jalousie. D'où donc pouvait alors provenir l'angoisse qu'il ressentait? Savez-vous, mon oncle, que vous rajeunissez tous les jours? L'oncle secoua la tête en répondant « Depuis quand, ma chère, depuis quand ?»« Je crois, répondit la petite Dorit, continuant à broder, que voilà plusieurs semaines que vous rajeunissez à vue d'œil. Vous êtes devenu si gai, cher oncle, si vif et si facile à amuser. » « Ma chère enfant, c'est toi qui as tout fait. »« Moi, cher oncle ? » ?»« Oui, oui, tu m'as fait un bien infini. Tu as été si bien rempli d'égards et d'affection pour moi, tout en cherchant avec délicatesse à me cacher tes attentions, que je... »« Va, va, tout cela n'est pas perdu pour moi, ma chérie. Rien n'est perdu, je t'en réponds. » »« Mais tout cela n'a d'existence que dans la vivacité de votre imagination, mon oncle, » répliqua en riant la petite Dorit. « Soit, 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 » murmura le vieillard, « que Dieu n'en soit pas moins béni. » Elle interrompit un instant son ouvrage pour regarder son oncle, et ce regard réveilla une nouvelle angoisse dans le cœur de l'ex-doyen. C'était un cœur si plein de faiblesses, de contradictions, d'irrésolutions, d'inconséquences, de toutes les petites misères de cette vie confuse où nous sommes, et dont le jour éternel pourra seul dissiper le brouillard. « C'est que, vois-tu, ma colombe, j'ai été plus à mon aise avec toi, » reprit le vieillard, « depuis qu'on nous a laissés seuls. Je dis seul parce que je ne compte pas Madame Générale. Je ne m'inquiète pas plus d'elle qu'elle ne s'inquiète de moi. Mais je sais que j'impatientais Fanny. Cela ne m'étonne pas et je ne m'en plains pas, car je vois bien que je suis en embarras, quoique je me tienne à l'écart autant que possible. Je sais que je ne suis pas digne de figurer dans notre société. Mon frère William, continua le vieux musicien d'un ton admirateur, mériterait d'avoir des rois pour compagnons. Mais il n'en est pas de même de ton oncle, ma chère. Frédéric Dorit ne fait pas honneur à William Dorit, et il ne le sait que trop. Ah, mais voici ton père aimé. Mon cher William, sois le bienvenu chez toi. Mon cher frère, je suis bien heureux de te revoir. » Il avait tourné la tête par hasard en parlant et avait aperçu son frère debout dans l'embrasure de la porte. La petite Dorit se leva avec une exclamation joyeuse, passa les bras autour du cou de son père qu'elle embrassa à plusieurs reprises. M. Dorit paraissait mécontent et boudeur. « Je suis heureux d'avoir enfin réussi à vous trouver, Amy, » dit-il. « Ah, je suis vraiment très heureux de... trouver enfin quelqu'un pour me recevoir. » On paraît m'avoir, ah, si peu attendu, que je commençais, ma parole d'honneur, à croire que je ferais bien de m'excuser, d'avoir pris la liberté de revenir chez moi. Il était si tard, mon cher William, remarqua son frère, que nous avions renoncé à l'espérance de vous voir arriver ce soir. Je suis plus robuste que toi, mon cher Frédéric, répliqua M. Dorit d'un ton de pitié fraternelle presque sévère. Et j'espère que je puis voyager sans danger pour ma santé à l'heure qu'il me plaît. Certainement, répondit l'autre, devinant qu'il avait offensé son frère sans le vouloir. Certainement, William. « Merci, Aimée, » ajouta M. Dorrit, tandis qu'elle le débarrassait d'une partie de son costume de voyage. « Merci, je n'ai pas besoin que l'on m'aide. Ne prenez pas cette peine, Aimée. Pourrait-on me donner une croûte de pain et un verre de vin, ou bien serait-ce causer un trop grand dérangement ?»«
Cher père, on va vous servir à souper dans quelques minutes. »
« Merci, mon enfant, » répondit M. Dorrit, avec une froideur pleine de reproches. « Je crains vraiment de donner trop de peine à tout le monde. Madame Générale se porte bien ?»«
Madame Générale s'est plainte d'une migraine et d'un peu de fatigue, de façon que lorsque nous avons renoncé à l'espérance de vous voir arriver, elle est allée se coucher. »
Peut-être M. Dorrit sut-il bon gré à Madame Générale de s'être sentie indisposée en ne le voyant pas venir. Dans tous les cas, ses traits se déridèrent, et il dit avec une satisfaction évidente « Désolé d'apprendre l'indisposition de Madame Générale. » Pendant ce court dialogue, sa fille avait continué à le regarder avec encore plus d'intérêt que de coutume. On eût dit qu'elle le trouvait changé ou vieilli. Le père s'en aperçut et s'en formalisa, car il demanda d'un ton de mauvaise humeur plus marqué, lorsqu'il se fut débarrassé de son manteau et qu'il se fut approché du feu, « Eh bien, Aimée, qu'avez-vous à me regarder ainsi? Que voyez-vous donc en moi qui vous oblige à me contempler avec, une sollicitude si particulière ?»«
C'est malgré moi, père. Je vous demande pardon. Cela réjouit mes yeux de vous revoir. Voilà tout. » »«
Ne dites pas « voilà tout », parce que ce n'est pas tout. Vous trouvez, » répliqua Dorrit avec une énergie accusatrice, « que je n'ai pas bonne mine ?»«
Je trouvais seulement que vous paraissiez un peu fatigué, père. »«
Eh bien, vous vous trompez. »« Je ne suis pas fatigué du tout. »« Je suis beaucoup mieux portant que je ne l'étais lors de mon départ. »
Le voyant si irritable, la petite Dorrit, au lieu de se justifier, resta debout à côté de lui sans parler, le tenant par le bras. Le vieillard, assis entre sa fille et son frère, fut pris d'une somnolence profonde qui ne dura pas une minute et dont il se réveilla en sursaut.
« Frédéric, » dit-il alors en se tournant vers son frère, « je te conseille d'aller te coucher tout de suite. »«
Non, William, je resterai pour te tenir compagnie pendant ton souper. »«
Frédéric, » riposta l'aîné, « je te prie d'aller te coucher. Tu, m'obligeras en accédant à ma demande. Il y a longtemps que tu devrais être au lit. Tu es très faible. »
« Allons, » dit le vieillard qui ne cherchait qu'à plaire aux voyageurs, « soit, c'est possible. »
« Mon cher Frédéric, » continua M. Dorrit, d'un ton qui annonçait combien il se croyait fort à côté de son frère, « il ne peut exister aucun doute à cet égard. Je regrette de te retrouver aussi faible. Ah, cela m'afflige profondément. Tu n'as pas l'air bien portant du tout. Il ne faut pas veiller si tard. Cela ne vaut rien. » Tu devrais prendre plus de soin de ta santé, beaucoup plus de soin.
Veux-tu que j'aille me coucher ? Demanda Frédéric.
Cher Frédéric, je t'en conjure. Bonsoir, frère. J'espère que tu seras plus fort demain. Tu as très mauvaise mine. Bonsoir, mon ami. Après avoir congédié son frère de cette gracieuse façon, il se rendormit de nouveau avant que Frédéric eût seulement franchi le seuil de la chambre, et il serait tombé en avant dans la cheminée si sa fille ne l'eût retenu.
« Votre oncle commence à radoter, Aimée, » dit-il, lorsqu'il eut été ainsi réveillé.
« Il n'a pas de suite dans les idées, et sa conversation est plus décousue qu'elle ne l'a jamais été.
Il n'a pas été malade pendant mon absence ?»«
Non, père. Tu ne le trouves pas changé, Aimée ?»«
Je n'ai pas remarqué, père. Il est très cassé, très cassé.
« Mon pauvre et bon Frédéric s'en va. Il était bien cassé avant mon départ, mais aujourd'hui, il s'en va. »
Le souper conservé sur la petite table où Aimée avait travaillé vint faire diversion. Elle se tint auprès de lui comme au jour passé, pour la première fois depuis leur départ de Londres. Il se trouvait seul, et ce fut elle qui le servit et lui versa à boire, comme elle avait coutume de le faire autrefois dans la prison. Elle évitait autant que possible de le regarder, de crainte de l'irriter de nouveau. Mais elle remarqua que pendant ce repas, il tourna deux fois sa tête vers elle, puis jeta les yeux autour de lui,
comme s'il était en proie à une association d'idées si frappante qu'il avait besoin du témoignage de ses sens pour être sûr de ne pas se trouver encore dans la vieille chambre de la maréchaussée. Chaque fois, il porta la main à sa tête comme s'il cherchait la calotte de velours noir, bien que cette coiffure, ignominieusement abandonnée à quelques détenus, n'eût pas encore reconquis sa liberté et continua à voltiger dans les préaux sur la tête de son nouveau propriétaire. Il mangea fort peu, mais il resta assez longtemps à table et fit encore plus d'une allusion au triste état de son frère. Tout en lui témoignant beaucoup de pitié, il s'exprima avec une certaine amertume. Il dit que ce pauvre Frédéric radotait. Oui, il n'y avait pas d'autre mot pour exprimer cela. Il radotait. Pauvre garçon, on ne pouvait songer sans tristesse à tout ce qu'Aimé avait dû avoir à souffrir de l'extrême ennui d'une pareille société. Bavardante et jacassant, pauvre cher homme, bavardante et jacassant sans suite. Heureusement, elle avait eu pour se dédommager Madame Générale. Il était désolé, répéta-t-il avec la même satisfaction qu'auparavant, que cette femme supérieure fût indisposée. La petite Dorit, grâce à son affection vigilante, se serait souvenue des paroles et des actions les plus insignifiantes de son père, quand même elle n'aurait eu dans la suite aucun motif pour se rappeler les moindres événements de cette soirée. Elle n'oublia jamais que, lorsqu'il regardait autour de lui, sous la puissante influence des souvenirs d'autrefois, il semblait chercher à les effacer de la mémoire de sa fille et de sa propre mémoire, en appuyant sur les immenses richesses et la société distinguée dont il s'était vu entouré pendant son séjour à Londres, et sur la position élevée que lui et sa famille avaient à maintenir. Elle ne manqua pas non plus de se rappeler qu'il y avait ce soir-là deux courants sous-marins et parallèles qui dirigeaient les discours et les actions de son père. L'un n'avait d'autre but que de lui faire voir avec quelle facilité il avait pu se passer d'elle, l'autre de se plaindre d'elle par pur caprice et sans raison apparente, comme s'il l'eût accusée de l'avoir négligée pendant son absence. Sa description de la grandeur de M. Myrtle et de la cour qui s'inclinait devant ce nouveau monarque amena naturellement M. Dorrit à parler de Mme Myrtle, si naturellement que, sans chercher à mettre aucune suite dans ses idées incohérentes, il passa brusquement à cette dame pour demander comment elle allait. « Très bien, elle quittera la semaine prochaine. »« Pour Londres ?» demanda M. Dorrit. « Oui, après un séjour de quelques semaines en route. » Son absence se fera vivement sentir ici, mais son retour sera une immense acquisition à Londres, pour Fanny et pour le reste du grand monde. La petite Dorrit, en songeant à la rivalité qui allait se déclarer lors de cette rencontre, ne put qu'approuver faiblement la réflexion de son père. « Madame Myrtle donne un grand bal d'adieu, cher père, et un dîner auparavant. Elle m'a exprimé son vif désir de vous voir revenir à temps. Elle nous a invités tous les deux au dîner. Elle est, bien bonne. Pour quel jour? Pour après-demain. Vous enverrez un petit mot dans la matinée pour annoncer que je suis de retour et que je serai ravi. Voulez-vous que je monte l'escalier avec vous et que je vous reconduise jusqu'à votre chambre, cher père? Non, répondit-il, regardant autour de lui d'un air irrité, car il s'éloignait sans dire bonsoir à sa fille. « Ce n'est pas la peine. Je n'ai pas besoin, moi, qu'on me conduise. Votre père n'est pas comme votre oncle, infirme. » Il s'interrompit tout à coup, aussi brusquement qu'il avait parlé, et reprit. « Tu ne m'as pas embrassé, Amy. Bonsoir, chérie. Il faut que nous te trouvions un mari. Ah, il faut que nous te trouvions un mari, à ton tour. » Sur ce, il monta l'escalier d'un pas lent et fatigué, gagna son appartement, et dès qu'il y fut arrivé, renvoya son valet. Ensuite, il se mit à passer en revue ses emplettes parisiennes, et après avoir ouvert les étuis et contemplé les bijoux, il les mit sous clé. Puis, grâce à quelques accès de somnolence et à ses châteaux en Espagne, il s'oublia si longtemps que le matin commençait à s'annoncer à l'horizon oriental de la campagne déserte lorsqu'il gagna son lit. Madame Générale envoya ses compliments le lendemain à une heure convenable, et fit dire qu'elle espérait que M. Dorrit était remis des fatigues de son voyage. M. Dorrit renvoya ses compliments et fit répondre à Madame Générale qu'il avait très bien dormi et qu'il se sentait frais et dispos. Néanmoins, il ne sortit de son appartement qu'assez tard dans l'après-midi. Et bien qu'il eût fait une toilette splendide avant de monter en voiture avec Madame Générale et la petite Dorit, sa mine ne répondait pas du tout à la description brillante qu'il avait faite de sa propre santé. Comme la famille ne reçut pas de visiteurs ce jour-là, les quatre membres qui la composaient dînèrent seuls. M. Dorit donna le bras à Madame Générale et la fit asseoir à sa droite avec beaucoup de cérémonie. Aimée ne put s'empêcher de le remarquer, tandis qu'elle suivait avec son oncle, que son père avait encore fait une toilette resplendissante et que ses façons envers Madame Générale avaient quelque chose de particulier. Cette dame s'était formée un maintien si parfait qu'il devenait presque impossible de rien reconnaître sous la couche de vernis distingué qu'elle y avait étendue. Mais la petite Dorit crut entrevoir une légère nuance de triomphe dans un coin de l'œil vitreux de l'aimable veuve. Malgré ce qu'on pourrait appeler le caractère prunique et prismatique de ce repas de famille, M. Dorit s'endormit à plusieurs reprises entre le potage et le dessert. Ses accès de somnolence furent aussi subis que ceux de la veille, aussi courts et aussi profonds. La première de ces léthargies inconvenantes parut presque causer de l'ébahissement à Madame Générale. Mais chaque fois qu'elles se renouvelèrent après, elle se mit à débiter son chapelet de « papa, pomme, poule, pruneau de Tours » et à force de répéter très lentement ses oraisons d'un nouveau genre, elle se trouva au bout de son rosaire au moment où M. Dorit se réveillait en sursaut. Il se réveilla pour témoigner encore combien il était péniblement affecté de voir chez Frédéric des symptômes comateux. Notez qu'il n'existait en réalité que dans son propre cerveau, et après dîner, lorsque Frédéric se fut retiré, il adressa en particulier des excuses à Madame Générale. « Le plus estimable et le plus affectueux des frères, dit-il, mais... c'est un homme fini. C'est triste à dire, mais il baisse. Il baisse, madame. » M. Frédéric remarqua Madame Générale, est ordinairement distrait et courbé, c'est vrai, mais espérons néanmoins qu'il n'en est pas encore là. Mais M. Dorit ne voulut pas que son frère en fût quitte à si bon marché. « Il baisse rapidement, madame. Ce n'est plus qu'un débris, une ruine. Il s'en va à vue d'œil. Bon, Frédéric. » « Vous avez laissé Madame Spinkle heureuse et bien portante, j'espère ?» demanda Madame Générale, après avoir poussé un soupir assez froid au profit de Frédéric. Entouré de « ah !» de tout ce qui peut charmer les sens et « élever l'esprit. Heureuse, ma chère madame, et fière, de son mari. » Madame Générale, en proie à un léger trouble, parut repousser le mot de mari avec ses gants, comme une personne dont la pudeur s'alarme du ton que la conversation peut prendre avec un pareil point de départ. Fanny, poursuivit M. Dorit, Fanny, Madame Générale, possède de brillantes qualités. Ambition, fermeté, conscience, de sa position, désir de soutenir cette position, grâce, beauté et noblesse naturelle. Sans doute, dit Madame Générale, avec un léger supplément de roideur. Au milieu de ces qualités, madame, continua M. Dorit, Fanny a un seul défaut. Un seul défaut qui m'a rendu inquiet et qui m'a même irrité. Mais ce défaut qui, aujourd'hui, je l'espère, a cessé d'exister chez Fanny, ne saurait plus désormais produire un effet désagréable sur les autres. À quel défaut, M. Dorit, fait-il allusion ? Répliqua Madame Générale, les gants un peu agités. « Je ne peux m'expliquer. »« Ne dites pas cela, chère madame, » interrompit M. Dorit. La voix de Madame Générale murmura doucement. « Je ne peux m'expliquer ce que vous entendez par là. » À cet endroit de la conversation, M. Dorit tomba de nouveau dans un état de somnolence, dont il se réveilla tout à coup avec une vivacité spasmodique. « Je fais allusion, Madame Générale, à cette... esprit d'opposition, je dirais même de jalousie, que Fanny a de temps à autre manifesté contre le sentiment que m'inspire la dame avec laquelle j'ai l'honneur de causer en ce moment. Monsieur Dorit est toujours trop bon, trop indulgent. s'il y a eu des moments où j'ai pu me figurer que Mademoiselle Dorrit voyait d'un mauvais œil l'opinion favorable que M. Dorrit a conçue de mes services, j'ai trouvé dans cette opinion trop flatteuse une consolation et une récompense suffisantes.
De vos services, madame ? Demanda M. Dorrit.
De mes services, répéta Madame Générale, d'un ton à la fois expressif et élégant.
Rien que de vos services, chère madame, répéta M. Dorrit à son tour.
Je présume, riposta Madame Générale, avec la même intonation qu'auparavant, que c'était à mes services seulement que je le devais.
À quelle autre cause, ajouta-t-elle, avec un geste interrogateur de ses gants, pourrais-je attribuer?
Ah, à votre personne, Madame Générale.
Ah, à votre personne et à vos mérites, répondit M. Dorrit.
M. Dorrit ne m'en voudra pas si je lui fais observer que l'endroit et le moment ne seraient pas bien choisis pour poursuivre une conversation de ce genre. M. Dorrit me pardonnera si je lui rappelle que Miss Dorrit est dans la pièce voisine, où je l'aperçois tandis que je prononce son nom. M. Dorrit m'excusera si j'avoue que je suis ému et que je reconnais qu'il est des moments où des faiblesses que je croyais avoir surmontées renaissent avec un redoublement d'énergie.
M. Dorrit me permettra de me retirer.
Peut-être pourrons-nous reprendre plus tard cette intéressante conversation, à moins qu'elle ne déplaise le moins du monde à Madame Générale. Mais j'espère qu'il n'en est rien.
M. Dorrit, répliqua Madame Générale, baissant les yeux tandis qu'elle se levait en saluant, a droit en tout temps à mes hommages et à mon obéissance.
Madame Générale s'éloigna alors d'un air majestueux et non pas avec cette agitation vulgaire qu'aurait pu montrer en pareille circonstance une femme moins remarquable.
M. Dorrit, qui pendant cette conversation avait gardé un ton plein d'une dignité affable et d'une condescendance mêlée d'admiration, à peu près comme certaines gens composent leur maintien à l'église et soutiennent leur rôle à l'office, parut assez satisfait, en somme, de lui-même et de Madame Générale. Lorsque cette dame redescendit pour prendre le thé, elle s'était bichonnée avec de la poudre et de la pommade. Elle n'oublia pas non plus les séductions morales. On le vit bien aux doux airs de protection qu'elle adopta à l'égard de son élève et au tendre intérêt qu'elle témoigna à M. Dorrit, aussi tendre, du moins, que le permettait la plus stricte convenance. À la fin de la soirée, lorsqu'elle se disposa à se retirer, M. Dorrit lui donna la main comme s'il allait la conduire à la Piazza del Popolo pour danser un menuet au clair de la lune, et la reconduisit avec beaucoup de solennité jusqu'à la porte, où il porta à ses lèvres les phalanges de sa belle amie. Ayant pris congé d'elle avec ce baiser dans le genre osseux, légèrement parfumé de cosmétiques, il donna à sa fille une gracieuse bénédiction. Après avoir ainsi vaguement révélé les projets remarquables qu'il pouvait tramer dans son cœur, il alla se coucher. Il ne se montra pas le lendemain matin, mais vers 1 heure de l'après-midi, il adressa, par l'intermédiaire de M. Tinkler, ses compliments les plus empressés à Madame Générale, la priant de vouloir bien accompagner Mademoiselle Dorrit à la promenade sans lui. Sa fille était déjà habillée pour le dîner de Madame Myrtle lorsqu'il sortit de son appartement. Il se présenta alors dans une brillante toilette, mais le visage ridé et vieilli. Cependant, comme il était facile de voir qu'il se fâcherait encore si elle lui demandait seulement des nouvelles de sa santé, elle se contenta de l'embrasser sur la joue avant de l'accompagner, le cœur serré, chez Madame Myrtle. Le trajet n'était pas long, mais il eut encore le temps de continuer à bâtir son château en Espagne avant que la voiture eût fait la moitié du chemin. Madame Myrtle le reçut avec beaucoup de distinction. La poitrine était admirablement conservée et de fort bonne humeur. Le dîner fut exquis et la société des plus choisies. Il n'y avait guère que des convives anglais, sauf un comte français et un marquis italien, ornements sociaux qu'on est toujours sûr de trouver à certaines réunions et toujours fabriqués d'après le même modèle. La table était fort longue et le repas à l'avenant. La petite Dorrit, assise à l'ombre d'une immense paire de favoris noirs et d'une vaste cravate blanche, perdit son père de vue jusqu'au moment où un domestique lui remit un bout de papier de la part de Madame Myrtle
en la priant de le lire tout de suite.
Madame Myrtle avait écrit au crayon « Venez parler à Monsieur Dorrit. Je crains qu'il ne soit malade. »
Elle s'empressait d'accourir, mais sans se faire remarquer, lorsque son père se leva, et la croyant toujours à sa place, l'appela « Amy, Amy, mon enfant !»
C'était un procédé si étrange, sans parler de l'agitation plus étrange encore de ses manières et de sa voix, qu'il se fit immédiatement un profond silence.
« Amy, ma chère, répéta-t-il, va donc voir si c'est Bob qui est de garde aujourd'hui au guichet. »
Elle se tenait à côté de lui et le touchait, mais il s'obstinait à croire qu'elle n'avait pas quitté sa place, et il cria encore, toujours debout, et les mains appuyées sur la table,
« Amy, Amy, je ne me sens pas très bien. Ah, je ne sais pas ce que j'ai. Je désire surtout voir Bob. De tous les guichetiers, il est autant mon ami que le tien. Voici Bob est dans sa loge, et prie-le de venir me trouver. »
Les convives, consternés, s'étaient tous levés.
« Cher père, je ne suis plus là-bas, et vos yeux me cherchent. Me voici, à vos côtés. »« Oh, te voilà, Amy. Bien, bien. Appelle donc Bob. S'il n'est pas de garde et qu'il ne se trouve pas dans la loge, dis à Madame Baum d'aller le chercher. »
Elle essayait de l'attirer doucement et de l'emmener, mais il résista et ne voulut pas la suivre.
« Je te répète, enfant, dit-il d'un ton mécontent, que je ne peux pas monter cet étroit escalier si Bob n'est pas là pour m'aider. Ah, envoie chercher Bob, le meilleur des guichetiers, envoie le chercher. »
Il regarda autour de lui d'un air troublé, et se voyant entouré d'un grand nombre de personnes, il leur adressa ce discours.
« Messieurs et mesdames, mon devoir m'oblige à vous souhaiter la bienvenue. Soyez les bienvenus dans la prison de la maréchaussée. Notre territoire est un peu restreint. La promenade pourrait être moins limitée, mais plus vous resterez ici, et plus elle vous paraîtra s'agrandir, et l'air, tout bien considéré, est fort salubre. La brise nous arrive des collines du comté de Surrey. Messieurs et mesdames, voici le café de l'endroit, entretenu au moyen de souscriptions volontaires, par les membres de la communauté. On y trouve en échange de l'eau chaude, une cuisine commune et divers autres petits avantages domestiques. Les habitués de la maréchaussée veulent bien m'appeler leur père. Les étrangers aussi ont coutume de présenter leur respect aux doyens de la communauté. Et certes, si de longues années de résidence donnent des droits à un titre si honorable, je puis sans scrupule réclamer cette distinction. Je vous présente mon enfant, messieurs et mesdames, ma fille qui est née ici. »
Elle ne rougissait pas du lieu de sa naissance, ni de son père. Elle était pâle, elle avait peur. Mais son seul souci était de le calmer et de l'emmener, par amour pour lui. Elle se tenait entre lui et tous ses visages surpris, appuyés contre sa poitrine et le visage levé vers le sien. Il l'entourait de son bras gauche, et de temps en temps, on entendait la voix de la jeune fille qui le suppliait tendrement de s'éloigner avec elle.
« Né ici, répéta le vieillard, versant des larmes. Élevé ici, messieurs et dames, je vous présente ma fille. Fille d'un père malheureux, c'est vrai, mais toujours gentleman. Pauvre sans doute, mais toujours fier, toujours fier. Il arrive, très fréquemment que mes admirateurs personnels, seulement mes admirateurs personnels, expriment le désir de reconnaître la position semi-officielle que j'occupe ici par l'offre de divers petits tributs qui prennent ordinairement la forme d'un témoignage pécuniaire. En acceptant ces hommages volontaires rendus aux humbles efforts que je fais pour maintenir la dignité de la communauté, je dois dire avant tout que je ne crois pas compromettre par là ma position de gentleman, nullement, qui, moi, un mendiant, non pas, je repousse cette injure. Mais, en même temps, loin de moi l'idée d'offenser les nobles sentiments qui animent mes généreux amis, en hésitant à reconnaître que leurs offrandes sont très acceptables. Au contraire, j'avoue qu'elles sont, on ne peut plus acceptables. Au nom de ma fille, sinon personnellement, je fais cet aveu sans le moindre scrupule et sans la moindre réticence. Mais sous toute réserve, bien entendu, de ma dignité personnelle. Messieurs et mesdames, Dieu vous bénisse. »
À cet endroit du discours, l'extrême déconvenue de Madame Merton avait engagé la plupart des convives à se retirer dans les salles voisines. Les quelques curieux qui assistaient encore à cette triste scène ne tardèrent pas à les suivre, laissant la petite Dorrit et son père seuls avec les domestiques.
« Mon cher père, mon père bien-aimé, ne voulez-vous pas m'accompagner maintenant ?»
Mais non, il répondait à ses supplications qu'il ne pourrait jamais gravir l'étroit escalier si Bob ne venait pas l'aider. Où donc était Bob ? Pourquoi personne ne voulait-il amener Bob ? Sous prétexte d'aller à la recherche de Bob, elle fit descendre son père au milieu des flots de joyeux invités qui arrivaient au bal, monta avec lui dans une voiture qui venait d'amener des danseurs et le reconduisit chez lui. Le large escalier de son palais romain prit, aux yeux de son cerveau malade, les proportions de l'étroit escalier de la prison de Londres, et il ne permit à personne, sauf à la petite Dorrit et à l'oncle Frédéric, de le toucher. Ils parvinrent à le conduire, sans autre aide, jusqu'à la chambre et à le coucher. À partir de ce moment, sa pauvre âme mutilée, ne se souvenant plus que de l'endroit où elle s'était brisée les ailes, supprima le rêve à travers lequel elle avait été emportée depuis pour ne plus se rappeler que la prison de la maréchaussée. Lorsqu'il entendait des pas résonner sur le pavé de la rue, il les prenait pour le pas monotone des détenus se promenant dans les cours de la geôle. Dès que l'heure de la fermeture avait sonné, il se figurait que tout étranger était exclu jusqu'au lendemain. Lorsqu'arrivait le moment de rouvrir les portes, il demandait avec tant d'inquiétude à voir Bob qu'il leur fallut inventer une histoire et raconter comme quoi Bob, il y avait de longues années qu'il était mort, ce pauvre Bob, le plus doux des guichetiers, avait attrapé un rhume, mais qu'il espérait être debout le lendemain ou le surlendemain ou dans 3 jours au plus tard. Le vieillard était devenu si faible qu'il ne pouvait plus lever la main, mais il n'en continua pas moins de protéger son frère comme par le passé, et il lui disait d'un ton affable 50 fois par jour, en le voyant debout à son chevet, « Mon bon Frédéric, assieds-toi. Tu es beaucoup trop faible pour rester si longtemps debout. » On essaya de lui amener Madame Générale, mais il ne la reconnut pas le moins du monde. Au contraire, il lui vint dans l'esprit un soupçon injurieux. Il accusa cette dame distinguée de vouloir supplanter Madame Baume et de se livrer à la boisson. Il lui adressa à cet égard des reproches si peu mesurés dans les termes et insista tellement pour qu'Aimée alla prier le directeur de la mettre à la porte que la veuve de l'intendant militaire ne reparut plus jamais après ce premier échec. Sauf qu'il demanda une seule fois « Tip est-il libre ?» le souvenir de ses 2 autres enfants sembla s'effacer de sa mémoire. Mais celle qui avait tant fait pour lui, et qui l'en avait si mal récompensé plus tard, resta toujours présente à sa mémoire. Non pas pour l'aménager, pour chercher à lui épargner les veilles ou les fatigues. Il ne s'en inquiétait pas plus qu'autrefois. Non, il l'aimait toujours à sa manière. Il se trouvait de nouveau dans la vieille prison de la maréchaussée. Sa fille restait là pour le soigner. Il avait sans cesse besoin d'elle et ne pouvait se retourner sans son aide. Il alla même parfois jusqu'à lui dire qu'il ne regrettait pas tout ce qu'il avait souffert pour elle. Quant à la petite Dorrit, elle se penchait sur le lit, son visage paisible appuyé contre celui de son père, et elle aurait donné sa vie pour sauver les jours du pauvre malade. Lorsqu'il eut continué pendant 2 ou 3 jours à s'affaiblir sans souffrance, elle remarqua qu'il était agacé par le tic-tac de sa montre, une montre fastueuse, qui semblait croire dans son orgueil qu'après le temps, c'était elle qui réglait tout ici-bas. Elle la laissa s'arrêter, mais cela ne suffit pas pour calmer l'inquiétude du vieillard. Ce n'était pas là ce qu'il voulait. Enfin, il trouva la force d'expliquer qu'il désirait obtenir de l'argent en mettant sa montre en gage. Il fut enchanté lorsque la petite Dorrit fit semblant de l'emporter dans ce but, et parut prendre avec plus de plaisir qu'auparavant quelques gorgées de vin et quelques cuillerées de gelée. La preuve que c'était bien là ce qu'il voulait, c'est que le lendemain ou le surlendemain, il confia dans le même but à sa fille ses boutons de manche et ses bagues. Il éprouvait une merveilleuse satisfaction à la charger de ses commissions et semblait croire qu'il prenait là des mesures pleines de sagesse et de prévoyance. Lorsqu'il eut disposé de ses bijoux, ou du moins de ceux qui avaient frappé sa vue, ce fut le tour de ses vêtements à attirer son attention. Et il est assez probable que son existence fut prolongée de quelques jours par la satisfaction qu'il éprouva de les voir portés un à un à quelque mont-de-piété imaginaire. Ce fut ainsi que la petite Dorit resta pendant 10 jours, penchée sur le lit du malade, la tête sur le même oreiller. Parfois, elle était si fatiguée qu'elle s'endormait aussi. Puis elle se réveillait pour se rappeler, en versant d'abondantes larmes, quel était ce visage qui touchait le sien, pour voir tomber peu à peu sur les traits chéris assoupis contre cet oreiller une ombre plus profonde que celle des murs de la prison de la maréchaussée. Petit à petit, on vit s'effacer, l'un après l'autre, jusqu'au dernier dessin de ce superbe château en Espagne. Petit à petit, le visage ridé où ce plan se développait naguère devint calme et uni. Petit à petit, la réflexion des barreaux de la prison et des pointes en zigzag qui en couronnaient les murs disparut aussi. Petit à petit, la physionomie du vieillard, rajeunie par sa fin prochaine, ressembla plus que jamais, sous ses cheveux blancs, à celle de la petite Dorit, et s'affaissa dans le repos suprême. D'abord, le pauvre Frédéric en perdit presque la tête. « Oh, mon frère, William, William, comment as-tu pu partir avant moi? Comment as-tu pu partir sans moi? Mourir le premier, toi, si supérieur, si distingué, si noble. Me laisser là, moi, pauvre créature, qui ne suis bonne à rien et qui n'aurais laissé de regret à personne. » Au premier moment, cela fit du bien à la petite Dorit d'avoir à s'occuper de quelqu'un, à consoler quelqu'un. « Mon oncle, mon cher oncle, ne vous désolez pas ainsi. Épargnez-moi. » Le vieillard ne fut pas sourd à ces dernières paroles. Lorsqu'il commença à se contraindre, ce fut afin de ne pas augmenter la douleur de sa nièce. Il ne songeait pas à lui-même, mais il honorait et bénissait la petite Dorit avec tout ce qui restait de force à son cœur, longtemps enseveli dans la peine et qui ne se retrouvait un moment que pour se briser tout à fait. « Oh, mon Dieu !» s'écria-t-il, avant de quitter la chambre, joignant ses mains ridées qu'il étendit sur la tête d'Aimée. « Mon Dieu, vous voyez cet enfant de mon frère mort. Tout ce que je n'ai fait qu'entrevoir avec mes yeux de pêcheur aveugle, vous, vous l'avez vu clairement dans la splendeur de votre sagesse. » Vous ne souffrirez pas qu'il tombe un seul cheveu de sa tête. Vous la soutiendrez jusqu'à sa dernière heure, comme je sais qu'un jour vous la récompenserez dans l'éternité. » Jusqu'à près de minuit, ils se tinrent tranquilles et tristes dans une sombre salle voisine de la chambre mortuaire. De temps à autre, la douleur du vieillard cherchait quelque soulagement dans quelque explosion de sentiments pareils. Mais, outre que sa faiblesse n'eût pas longtemps résisté à de pareils éclats, il n'avait pas oublié les paroles de sa nièce « Épargnez-moi ». Aussi, il ne tardait pas à s'adresser de reproches et à se calmer. Il se contenta donc de répéter avec des sanglots que son frère était parti seul, seul, qu'ils avaient débuté côte à côte dans la vie, que le malheur ne les avait pas séparés, qu'ils ne s'étaient pas quittés durant leurs longues années de pauvreté, qu'ils avaient vécu ensemble jusqu'à ce jour, et que son frère était parti seul, seul. Ils se séparèrent, épuisés et abattus. Aimée ne voulut quitter son oncle qu'après l'avoir reconduit dans sa chambre, où il se coucha tout habillé, sous une couverture dont sa nièce l'avait entourée. Alors elle se jeta elle-même sur son lit et s'endormit d'un profond sommeil. Du sommeil de l'épuisement et d'un repos forcé, empreint encore du sentiment confus d'une grande affliction. « Dors, bonne petite Dorit, dors jusqu'au matin. » Il fit un beau clair de lune cette nuit-là. Mais la lune se leva tard. Lorsqu'elle eut atteint une certaine hauteur dans le paisible firmament, elle éclaira à travers les persiennes à moitié fermées la chambre solennelle où venaient de se dénouer toutes les misères d'une existence agitée. Deux êtres reposaient tranquillement dans cette chambre, deux êtres également immobiles et impassibles, séparés en ce moment l'un et l'autre par un gouffre infranchissable de tout ce qui s'agite et vit sur cette terre qui va pourtant les réclamer bientôt. L'un gisait sur le lit, l'autre, agenouillé au chevet, était penché sur le premier, les bras étendus paisiblement et sans roideur sur le couvre-pied, la tête baissée, de façon que les lèvres touchaient la main sur laquelle elles avaient exhalé leur dernier souffle. Les deux vieillards étaient devant leur père, bien au-dessus des jugements crépusculaires de ce monde, bien au-dessus des brouillards et des obscurités terrestres. Chapitre 20, qui sert de préface au chapitre suivant. Les passagers du bateau à vapeur débarquent sur la jetée de Calais. C'est un triste et sombre endroit que Calais, lorsque la marée s'est retirée au niveau des basses eaux. Il n'y a d'eau tout juste que ce qu'il en faut pour permettre au paquebot d'approcher. Et en ce moment, la barre, où quelques vagues viennent encore se briser, ressemble à un gros paresseux de monstre marin qui laisse flotter à la surface de l'eau son corps endormi au soleil. Le maigre phare, tout blême, entend la côte comme le fantôme d'un édifice qui a autrefois joui d'une certaine corpulence et possédé de vives couleurs, distille des larmes mélancoliques à la suite des derniers soufflets qu'il vient de recevoir des vagues. Les longues rangées d'affreuses solives marcies, humides, gluantes, endommagées par le mauvais temps, ornées de funèbres guirlandes d'herbes marines dont la marée les a entourées, pourraient passer pour quelque mystérieux cimetière maritime. Dans ce paysage sans cesse battu par les flots et par le vent, tout semble si humble et si mesquin, en face de ce vaste ciel gris, au bruit de la mer et de la brise, devant la ligne écumeuse des vagues qui attaquent la côte avec tant de fureur, qu'on s'étonne qu'il reste encore quelque chose de Calais, et que ces méchantes portes, ces méchantes murailles, ces méchants toits, ces méchants fossés, ces môles chétifs, ces remparts ignobles et ces rues plates n'aient pas disparu depuis longtemps sous les attaques répétées de la mer envahissante, comme les fortifications que les enfants de la ville élèvent sur le sable de la plage. Après avoir patiné sur des planches et des solives glissantes, gravi des marches humides et vaincu beaucoup de difficultés maritimes, les voyageurs commencent leur pérégrination peu confortable le long de la jetée de bois où tous les vagabonds français et tous les réfugiés anglais de la ville, c'est-à-dire une bonne moitié de la population de Calais, se sont rassemblés pour empêcher ces malheureux de se remettre de leur émotion. Après avoir soutenu l'examen minutieux des badauds anglais, après s'être vus saisis, abandonnés, repris successivement par tous les garçons d'hôtel français dans une escarmouche brûle-pourpoint qui dure pendant un trajet d'environ 3/4 de mille, les nouveaux débarqués se trouvent enfin libres de pénétrer dans la ville et de s'enfuir chacun chez eux, vivement poursuivis. Clenham, en proie à plus d'une inquiétude, faisait partie de cette troupe infortunée. Après avoir arraché les plus faibles de ses compatriotes à des situations précaires, il poursuivit seul son chemin, ou du moins aussi seul qu'on peut l'être, quand on a à ses trousses, environ à 10 pas de distance, un gentleman indigène, protégé d'une cuirasse de graisse et coiffé d'une casquette de la même étoffe, qui vous crie sans relâche, sous prétexte de parler anglais, « Aïe, aïe, say, you, saya, I say, nice out all. » Mais Clenham réussit enfin à distancer ce personnage hospitalier et à poursuivre sa route sans encombre. La ville avait un aspect tranquille après le tapage de la côte et de la jetée, et si elle paraissait un peu triste, cette comparaison récente ne faisait pas regretter qu'elle fût plus animée. Il rencontra de nouveaux groupes de ses compatriotes. Tous avaient l'air assez râpés. On aurait dit de ces plantes éphémères qui avaient passé fleurs et qui n'avaient plus gardé que leurs tiges sèches et déchues. À les voir circuler dans le cercle limité des promenades de la petite ville, aujourd'hui, demain et toujours, on se rappelait involontairement le préau où se récréaient les détenus de la maréchaussée. Mais sans accorder à ces touristes plus d'attention qu'il n'en fallait pour faire cette remarque, en passant, il se mit en quête d'une certaine rue et d'un certain numéro qui était gravé dans sa mémoire. « C'est bien là l'adresse que Punch m'a donnée, » murmura-t-il, en s'arrêtant devant une maison d'aspect lugubre. « Je présume que ces renseignements sont exacts
et qu'il les a en effet découverts dans les papiers de M. Casby. Car autrement, je n'aurais jamais songé à venir chercher ici ma mystérieuse demoiselle. C'était une sombre maison, avec une triste muraille sur la rue et une triste porte pour y entrer, dont la sonnette produisit deux tristes tintements et dont le marteau renvoya un triste toc-toc qui n'avait pas seulement l'air d'avoir la force d'effleurer la surface craquelée de la porte. Cependant, cette porte s'ouvrit en grinçant sur son triste gond, il la referma derrière lui et entra dans une cour lugubre où il fut arrêté par une autre muraille aussi triste que la première, que l'on avait essayé de tapisser de quelques tristes plantes grimpantes à moitié mortes, comme on avait voulu l'orner aussi d'une petite fontaine en rocaille, à moitié sèche, et la décorer d'une petite statue qui n'avait plus que la moitié de ses membres. L'entrée de la maison se trouvait à gauche. Elle était garnie, ainsi que la porte cochère, de deux écriteaux qui annonçaient, en anglais et en français, qu'on trouvait là des appartements meublés à louer présentement. Une grosse paysanne réjouie, en jupon court, en bonnet blanc et en boucle d'oreille, parut en l'entrée d'une sombre allée, et demanda, en montrant une rangée de dents qui n'était pas désagréable à voir, « Ah, essaye, sœur, chez qui allez-vous ?» Clenham répondit en français qu'il désirait voir la dame anglaise. « Entrez et montez, s'il vous plaît, » répliqua la paysanne, employant aussi sa langue maternelle. Le visiteur s'empressa de profiter de la permission et suivit son guide par un escalier sombre et nu jusqu'à un salon qui donnait sur la triste cour aux plantes mortes, à la fontaine desséchée et aux tronçons de statues. « Monsieur Blandois, » dit Clenham. « Très bien, monsieur. » Sur ce, la paysanne se retira et Arthur put examiner le salon. C'était le type invariable des salons de ces appartements meublés, froid, triste et sombre. Parquet ciré, très glissant, bon seulement pour y patiner, s'il y avait eu assez de place. Rideaux rouges et blancs aux croisées. Petite table ronde, soutenue par un rassemblement de pieds tors. Chaise de paille incommode, deux grands fauteuils de velours d'Utrecht, où l'on avait autant de place qu'il en fallait pour ne pas y être à son aise. Un secrétaire, un miroir rapiécé, qui faisait semblant d'être d'un seul morceau, deux vases de fleurs très artificielles, éblouissantes de mauvais goût, et au milieu de la cheminée, un guerrier grec qui venait d'ôter son casque, en train de sacrifier une pendule au génie de la France. Au bout de quelques minutes, une porte qui communiquait avec une autre chambre s'ouvrit et une dame se présenta. Elle témoigna beaucoup de surprise à la vue de Clenham et jeta un coup d'œil tout autour du salon, comme pour y chercher un autre visiteur. « Pardon, Mademoiselle Wade, je suis seul. » « Ce n'est pourtant pas votre nom qu'on m'a annoncé. »« Non, je sais cela. Veuillez m'excuser. L'expérience m'a appris que mon nom ne vous aurait guère disposé à m'accorder l'entrevue que je désirais. C'est pour cela que je me suis permis de prononcer le nom d'une personne que je cherche. »« Permettez, » reprit Mademoiselle Wade, l'invitant à s'asseoir, mais avec un geste si froid qu'il resta debout. « Quel nom avez-vous dit à la bonne ?»«
Celui de Blandois. »«
Blandois ?»
C'est un nom qui ne vous est pas inconnu.
Je m'étonne, remarqua Mademoiselle Wade en fronçant les sourcils, que vous continuiez, sans que personne vous en prie, à vous mêler ainsi de mes affaires et de mes connaissances. Je ne sais pas ce que tout cela veut dire.
Pardon, vous connaissez ce nom?
Que vous fait ce nom?
Que me fait ce nom?
Qu'est-ce que cela vous fait que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas?
Je connais bien des noms, et j'en ai oublié encore davantage. Celui-ci peut être du nombre de ceux que je me rappelle, ou du nombre de ceux dont je ne me souviens plus. Peut-être même l'entends-je aujourd'hui pour la première fois. Je n'ai aucune raison pour m'interroger là-dessus moi-même, ou pour me laisser faire cette question. Si vous voulez bien me le permettre, je vous dirai le motif de mon importunité. J'avoue que j'insiste d'une façon très pressante, et je vous prie d'excuser cette insistance. Le motif qui m'y pousse m'est tout personnel. Je suis bien loin d'insinuer qu'il vous concerne.
« Eh bien, monsieur, » répondit Mademoiselle Wade, en l'engageant de nouveau à s'asseoir, avec un geste un peu moins hautain que la première fois, « je suis heureuse de voir, au moins, qu'il ne s'agit plus cette fois de la vassale d'un de vos amis, qui serait privé de son libre arbitre et qu'on m'accuserait d'avoir émancipé. J'écouterai votre motif si vous voulez bien me l'expliquer. »
D'abord, afin de constater l'identité de l'individu en question, continua Clennam, je vous dirai qu'il s'agit de la personne que vous avez rencontrée à Londres il y a quelque temps. Vous vous rappelez l'homme à qui vous aviez donné rendez-vous près de la Tamise, dans la Delphi ?
Vraiment, vous vous mêlez de mes affaires d'une façon inconvenante, dit Mademoiselle Wade, le regardant en face d'un air irrité. Comment savez-vous cela ?
Je vous prie en grâce de ne pas vous formaliser d'une indiscrétion apparente. Je l'ai su par hasard.
Par quel hasard ?
Par un hasard bien simple. On vous a vu dans la rue causer avec lui.
Vu ? Qui m'a vu ?
Est-ce vous ? Est-ce un autre ?
Moi-même.
Au fait, je lui ai parlé en pleine rue, dit-elle, après quelques moments de réflexion, commençant à se calmer. 50 personnes ont pu me voir. Et quand elle m'aurait vu, cela me serait parfaitement égal.
Je suis loin d'attribuer la moindre importance à ce fait.
Si j'en parle, c'est pour vous expliquer ma visite. Ce n'est pas qu'il ait aucun rapport avec le sujet qui m'amène, ni avec la faveur que j'ai à vous demander.
Oh, vous avez une faveur à me demander.
Je trouvais aussi, monsieur Clennam. Le beau visage de Mademoiselle Wade se tourna vers lui avec une expression d'amertume, que vos manières s'étaient bien radoucies depuis notre dernière rencontre. Il se contenta de protester légèrement de la main contre cette remarque sans la contredire. Il parla alors de la disparition de Blandois, dont elle avait sans doute eu connaissance.
Non.
Quelque probable que la chose pût sembler à M. Clennam, elle n'en avait pas entendu dire le premier mot.
Il n'avait qu'à regarder autour de lui, ajouta Mlle Wade, pour juger par lui-même s'il était vraisemblable qu'aucune nouvelle de ce genre fût parvenue aux oreilles d'une femme qui restait enfermée dans une pareille retraite à se dévorer le cœur.
Après cette dénégation, à laquelle Clennam ne put s'empêcher de croire, elle lui demanda ce qu'il entendait par le mot de « disparition ». Cette question le conduisit à entrer dans des détails et à laisser entrevoir combien il désirait apprendre ce qu'était devenu cet homme, afin de dissiper les soupçons qui planaient sur la maison de sa mère. Mademoiselle Wade l'écouta avec une surprise évidente et avec un intérêt puissant, quoique contenu, qu'il ne lui avait jamais vu témoigner auparavant. Cependant, cet intérêt ne diminuait en rien la réserve de ses manières, toujours fière et décourageante. Lorsqu'il se tut, elle se contenta de lui répondre « Vous avez oublié de me dire, monsieur, ce que j'ai à voir dans tout cela. » Et quelle est la faveur que vous avez à me demander? Seriez-vous assez bon pour réparer cette omission?
Je présume, reprit Arthur, continuant ses efforts pour adoucir le maintien dédaigneux de son interlocutrice,
qu'ayant eu des relations, oserais-je dire des relations confidentielles, avec cette personne.
Vous êtes bien libre de dire ce que vous voudrez, remarqua Mademoiselle Wade, comme je suis libre de mon côté de ne pas souscrire à vos hypothèses, monsieur Clennam.
Qu'ayant eu du moins des relations personnelles avec cet homme, poursuivit Clennam, changeant la forme de sa phrase dans l'espoir de la rendre plus acceptable, vous pourrez me donner quelques détails sur ses antécédents, ses habitudes, sa profession, son lieu de résidence ordinaire. Que vous pourrez, en un mot, me mettre sur la trace de ce qu'il peut être devenu. Voilà la faveur que j'ai à vous demander, et je vous la demande dans une situation d'esprit qui, je l'ose espérer, vous inspirera un peu de sympathie. Si vous avez un motif quelconque pour m'imposer des conditions, je le respecterai sans vous demander à le connaître.
Vous m'avez vu par hasard causant dans la rue avec cet homme, remarqua Mademoiselle Wade, qui, au grand dépit d'Arthur, s'occupait beaucoup plus de ses propres réflexions que de la prière même qu'il venait de lui adresser.
Vous le connaissiez donc déjà avant cette rencontre?
Non, pas avant.
Je ne l'ai connu que plus tard. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais je l'ai retrouvé le soir même, où l'on prétend qu'il a disparu, dans la chambre de ma mère, pour tout dire. Je l'y ai laissé. Vous verrez dans cette affiche tout ce qu'on sait de lui.
Il lui tendit un des avis imprimés, qu'elle lut avec beaucoup d'attention et d'intérêt.
« Eh bien, je n'en savais pas tant sur son compte, » reprit-elle, en lui rendant l'affiche.
Les traits de Clennam indiquèrent un vif désappointement, peut-être même annoncèrent-ils de l'incrédulité, car Mademoiselle Wade ajouta, du même ton peu sympathique, « Vous ne me croyez pas, pourtant rien n'est plus vrai. Quant à des relations personnelles,
Il me semble qu'il en a existé aussi entre cet homme et votre mère. Et néanmoins, vous voulez bien la croire lorsqu'elle vous déclare qu'elle ne le connaît pas davantage. » Ces paroles, ainsi que le sourire qui les accompagnait, renfermaient une insinuation assez claire pour faire monter le sang aux joues de Clennam. « Allons, monsieur, » répéta-t-elle, on voyait qu'elle éprouvait un cruel plaisir à répéter ce coup de poignard, « je serai aussi franche avec vous que vous pouvez le désirer. Je vous avouerai que, si je tenais à ma réputation, et heureusement je n'y tiens pas le moins du monde, ou si j'avais un nom à faire respecter, et heureusement encore, je ne me soucie pas du tout de ce que l'on peut penser de moi, je me regarderais comme fort compromise d'avoir eu affaire avec cet individu. Et pourtant, moi, il n'a jamais franchi mon seuil. Il n'est jamais resté en conférence avec moi jusqu'à minuit. » Elle vengeait une vieille rancune en tournant contre lui le sujet qu'il avait abordé le premier. Il n'était pas dans la nature de Mademoiselle Wade de chercher à l'épargner. Elle n'éprouvait pas le moindre remords de lui causer cette peine. « Je vous l'avouerai bien volontiers, s'écria-t-elle, cet homme est un misérable, un être vil et mercenaire, que j'ai rencontré pour la première fois, rôdant à la poursuite de quelque proie en Italie, où j'étais il n'y a pas bien longtemps, et c'est là que j'ai acheté ses services, trouvant en lui un instrument commode pour certains buts que j'avais en vue. Bref, je jugeais à propos, pour mon bon plaisir, pour la satisfaction d'un sentiment très vif, de prendre un espion à mes gages. J'ai employé ce blanc doigt, et je suis persuadé que si j'avais eu besoin de lui proposer un pareil marché, et le moyen de le payer assez cher, s'il avait pu de son côté faire le coup dans l'ombre sans courir de risque, il n'aurait pas fait plus de difficultés pour assassiner quelqu'un qu'il n'en a fait pour accepter mon argent. C'est là, du moins, l'opinion que j'ai de lui, et je vois que c'est à peu près la vôtre. Madame, votre mère, je le présume, car il m'est permis de faire, comme vous, des suppositions hasardées, professe sur lui une opinion contraire. J'ai oublié de vous dire, reprit Clennam, que ma mère a été mise en rapport avec lui par de malheureuses affaires commerciales. Il fallait bien, en effet, que ce fussent de malheureuses affaires qui la missent en rapport avec lui, répondit Mademoiselle Wade, car l'heure indue à laquelle elle a reçu ce client n'est pas une heure de commerce. « Vous supposez donc, » dit Arthur, blessé par ces froides insinuations, dont il avait déjà senti toute la force, « qu'il y avait quelque chose ?»« Monsieur Clennam, » répliqua Mademoiselle Wade avec beaucoup de sang-froid, « veuillez vous rappeler que je ne suppose rien au sujet de cet homme. J'affirme, sans détour, que c'est un misérable prêt à tout faire pour de l'argent. Je présume que lorsqu'un individu de ce genre va quelque part, c'est qu'on y a besoin de lui. Si je n'avais pas eu besoin de lui, vous ne nous auriez pas rencontrés ensemble. » Torturé par cette persistance de Mademoiselle Wade, à lui tenir toujours sous les yeux le triste soupçon dont l'ombre avait déjà traversé son âme, Clennam resta silencieux. « Notez bien, ajouta-t-elle, que je vous en parle ainsi, dans la supposition qu'il est encore de ce monde, car ce n'est qu'une supposition, et il peut tout aussi bien en avoir disparu sans que j'en sache rien, ou même sans que je m'en soucie. Je n'ai plus besoin de lui. » Arthur se leva lentement, avec un profond soupir, et d'un air découragé. Mademoiselle Wade resta assise, mais elle dit, après avoir lancé au visiteur un regard soupçonneux et en serrant les lèvres avec une expression de colère, « Cet homme n'était-il pas le compagnon de choix de votre cher ami Henry Gowan? Pourquoi donc ne priez-vous pas votre cher ami de venir à votre aide ?» Clennam allait nier que Gowan fût son cher ami, mais le souvenir de ses luttes et de ses résolutions d'autrefois le retint. Il répondit, « Monsieur Gowan n'a pas revu Blandois depuis le départ de cet étranger pour l'Angleterre. Il n'en sait pas davantage sur son compte. Blandois n'est d'ailleurs qu'une simple connaissance de rencontre faite en voyage. » « Une simple connaissance de rencontre faite en voyage, » répéta Mademoiselle Wade. « Oui, votre cher ami a grand besoin de faire de nouvelles connaissances afin de se divertir. » Grâce à la femme insipide qu'il a épousée. Je hais sa femme, monsieur. » La colère avec laquelle Mademoiselle Wade prononça ces paroles, colère bien remarquable chez une femme qui savait si bien se posséder, attira l'attention d'Arthur et le tint cloué à sa place. La haine brillait dans les yeux noirs fixés sur lui, tremblait au coin des narines et semblait embraser le souffle de Mademoiselle Wade
dont les traits, d'ailleurs, n'avaient rien perdu de leur sérénité dédaigneuse, et qui conservait autant de calme et de grâce hautaine que si elle eût été complètement indifférente au fond. Tout ce que je puis dire à cela, mademoiselle Wade, remarqua Clennam, c'est que vous entretenez là, bien gratuitement, un sentiment que personne, à mon avis, ne saurait partager. Vous pouvez demander à votre cher ami, si cela vous plaît, quelle est son opinion à cet égard.
Je ne suis pas assez intime avec mon cher ami, répondit Arthur, en dépit de la détermination qu'il avait prise d'abord, pour me permettre de traiter avec lui un pareil sujet d'entretien.
Je le hais, plus encore que sa femme, parce que jadis j'ai été assez dupe, assez traître envers moi, pour l'aimer, ou peu s'en faut. Vous ne m'avez vu, monsieur, que dans des circonstances ordinaires, et sans doute vous m'avez prise pour une femme ordinaire, un peu plus volontaire seulement que les autres. Vous ne savez pas ce que j'entends par haïr, si vous ne me connaissez pas mieux que cela. Vous ne pouvez pas le savoir, à moins de savoir aussi avec quel soin je me suis étudié moi-même, avec quel soin j'ai étudié tous ceux qui m'entourent. Voilà pourquoi je désire, depuis quelque temps, vous raconter ma vie. Non pas afin d'obtenir votre estime, car je m'en soucie fort peu, mais afin de vous faire comprendre, lorsque vous songerez à votre cher ami et à sa chère épouse, ce que j'entends par le mot « haïr ». Voulez-vous que je vous remette quelques pages que j'ai écrites et mises de côté à votre intention, ou dois-je les garder ? Arthur la pria de les lui donner. Elle s'approcha du secrétaire, l'ouvrit et prit dans un tiroir plusieurs feuilles pliées d'avance. Sans chercher le moins du monde à se concilier Arthur, mais paraissant plutôt s'adresser à son voisin pour justifier son entêtement à ses propres yeux, elle ajouta en lui remettant le manuscrit « Lorsque vous aurez lu ceci, vous saurez ce que j'entends par « haïr ». Mais brisons-la, monsieur. À Londres, comme à Calais, que vous me trouviez logé en passant et d'une manière économique dans une maison vide ou dans un appartement meublé, vous trouverez Henriette avec moi. Peut-être ne seriez-vous pas fâché de la voir avant de partir. Henriette, venez ici. » Elle l'appela une seconde fois. Ce second appel fit apparaître Henriette, ci-devant Tattycoram. Voici M. Clennam, dit Mademoiselle Wade. Il ne vient pas vous chercher, il a renoncé à cette idée, car je présume que maintenant, vous ne songez plus à la réclamer. N'ayant aucun titre, aucune influence à faire valoir, non. Monsieur ne vient pas vous chercher, Henriette, vous voyez. Mais néanmoins, il vient encore chercher quelqu'un. Il voudrait mettre la main sur ce blanc doigt. Avec qui je vous ai rencontré à Londres dans le Strand, lui rappela Clennam. Si vous savez quelque chose sur cet homme, Henriette, sauf qu'il arrivait de Venise, ce que nous savons tous, dites-le à M. Clennam en toute liberté.
Je ne sais pas autre chose, répondit la jeune fille.
Êtes-vous satisfait ? Demanda Mademoiselle Wade. Arthur n'avait aucune raison de croire qu'Henriette dissimulât la vérité. Les manières de Tattycoram étaient trop franches pour ne pas lui inspirer cette conviction. Quand même il aurait commencé par avoir des doutes, il répliqua donc « Allons, il me faudra chercher des renseignements ailleurs. » Il ne se disposait pas encore à partir, mais comme il se tenait déjà debout lorsque Tattycoram était entré, elle crut qu'il s'en allait. Elle le regarda donc et lui demanda avec vivacité « Vont-ils bien, monsieur ? Qui cela ?» Elle se retint car elle allait dire « Eux tous ». Elle jeta un coup d'œil vers Mademoiselle Wade et dit « Monsieur et Madame Meagles, ils allaient très bien la dernière fois que j'ai reçu de leurs nouvelles. Ils sont en voyage. À propos, j'ai une question à vous faire. Est-il vrai qu'on vous ait vu là-bas ?»« Où prétend-on m'avoir vu ?» répliqua la jeune fille en baissant les yeux d'un air de mauvaise humeur. « À Twickenham, devant la grille du jardin. » « Non, dit Mademoiselle Wade, elle n'y a jamais remis les pieds. » « Vous vous trompez, interrompit Tattycoram. J'y suis allé la dernière fois que nous sommes retournés à Londres. J'y suis allé une après-midi que vous m'avez laissé seul, et j'ai regardé par la grille du jardin. « Fille sans cœur !» s'écria Mademoiselle Wade, avec un mépris infini. « Voilà donc tout le fruit de votre séjour chez moi, de nos conversations continuelles, de vos anciennes doléances. C'était bien la peine. Quel mal y avait-il à aller jeter un coup d'œil à travers la grille ? Répliqua Tattycoram.
J'avais vu les volets fermés, je savais bien que la famille était absente.
Qu'est-ce que vous aviez besoin là ?
Je désirais revoir la maison, je sentais que cela me ferait plaisir de la revoir.
Tandis que ces deux beaux et fins visages se tournaient l'un vers l'autre, Clennam devinait les tortures que ces deux natures violentes devaient s'infliger l'une à l'autre.
« Oh ! » fit Mademoiselle Wade, qui adoucit froidement son regard irrité, avant de détourner les yeux, « si vous tenez tant à revoir l'enfer dont je vous ai retiré, le jour où vous aviez fini par vous apercevoir du genre de vie que vous y meniez, c'est autre chose.
Mais croyez-vous que ce soit de la franchise ? Est-ce là ce que je devais attendre de vous ? Est-ce là la fidélité sur laquelle je comptais ? Il me semblait que nous devions faire cause commune.
Allez, vous ne méritez pas la confiance que j'avais en vous. Vous ne méritez pas la protection que je vous ai accordée.
Vous n'avez pas plus d'amour-propre qu'un chien couchant.
Et vous ferez mieux de retourner chez les gens qui vous ont traité plus durement qu'on ne traite un épagnol à coups de fouet.
Si vous parlez d'eux de cette façon-là, devant le monde, vous me forcerez à prendre leur défense, répondit Tattycoram.
Allez les retrouver, riposta Mademoiselle Wade. Retournez chez eux.
Vous savez aussi bien que moi que je ne retournerai pas chez eux.
Vous savez aussi bien que moi que je les ai quittés à tout jamais et que je ne peux pas, que je ne veux pas les revoir.
Alors laissez-les donc tranquilles au lieu d'en dire du mal, Mademoiselle Wade.
Vous préférez l'abondance que vous trouviez chez eux à la maigre chair que vous faites ici.
Vous les exaltez afin de m'abaisser.
Mais devais-je m'attendre à autre chose ? N'était-ce pas facile à prévoir ?
C'est faux, s'écria Tattycoram, le teint animé. Vous dites le contraire de ce que vous pensez.
Je le sais bien, ce que vous pensez. Vous me reprochez, sans en avoir l'air, de vivre à vos dépens, faute d'autres ressources.
Et vous comptez là-dessus pour me faire marcher à votre fantaisie comme une enfant, et pour me faire dévorer tous les affronts.
Tenez, vous ne valez pas mieux qu'eux.
Mais rayez cela de vos papiers. Ne croyez pas que je sois jamais assez apprivoisée, assez soumise, pour endurer tout ça.
Je vous répète que je suis allée regarder la maison parce que j'ai souvent pensé que j'aurais du plaisir à la revoir, et si je demande encore de leurs nouvelles, c'est que je les ai aimés autrefois, du temps que je croyais qu'ils étaient bons pour moi.
Clennam intervint à cet endroit pour dire qu'il était convaincu qu'ils la recevraient comme par le passé si jamais elle désirait retourner chez eux.
« Jamais !» s'écria-t-elle d'une voix irritée. « Je ne ferai jamais cela !»
Personne ne le sait mieux que Mademoiselle Wade, malgré les reproches qu'elle m'adresse, parce qu'elle me voit sous sa dépendance. Je ne le sens que trop, que je suis sous sa dépendance, et qu'elle est enchantée d'avoir quelque occasion de me le rappeler.
« Voyez le beau prétexte !» dit Mademoiselle Wade, avec non moins de colère, d'un ton de hauteur et d'amertume.
« Cherchez-en un autre !» Celui-là est trop usé pour que je ne voie pas à travers.
C'est ma pauvreté qui vous fait regretter leur richesse.
Retournez chez eux, retournez chez eux, et que cela finisse.
Arthur Clennam contemplait ces deux femmes, debout, à quelques pas l'une de l'autre, dans cette triste chambre, entretenant toutes deux le feu de leur colère, décidées à torturer leur propre cœur et à se torturer l'une l'autre. Il ajouta quelques paroles pour prendre congé. Mais Mademoiselle Wade se contenta d'incliner la tête, tandis qu'Henriette, affectant l'humilité d'une servante ou d'une esclave, humilité orgueilleuse, où il entrait plus de révolte que de résignation, parut croire qu'elle était trop peu de chose pour qu'on fît attention à elle, ou pour qu'il lui fût permis de faire attention aux autres. Il descendit le sombre escalier tournant et regagna la cour, où l'aspect du mur tapissé de plantes mortes, de la fontaine desséchée, du piédestal sans statue, produisit sur lui une impression encore plus lugubre. Réfléchissant à ce qu'il venait de voir et d'entendre dans cette maison, à l'inutilité de ses efforts pour découvrir l'étranger suspect qui avait disparu, il retourna à Londres par le paquebot qu'il avait amené. Durant le trajet, il déplia le manuscrit de Mademoiselle Wade et lut ce que nous allons voir dans le chapitre suivant.